Les mystères du Palais-Royal. Première partie. Le diable. Chapitre 31. La chaise à porteurs. Voici ce qui s'était passé. Jeanne, en entendant s'affaiblir le bruit des pas de Raoul qui s'éloignait, douta d'abord que ce départ fût réel. Mais l'absence prolongée de tout bruit, l'ayant convaincue que son mari avait en effet quitté la maison, elle laissa tomber à ses pieds l'arme que, pendant un instant, elle avait tournée contre elle-même. Puis, elle chercha à mettre un peu d'ordre dans les pensées qui brûlaient son cerveau, en y tourbillonnant comme des paillettes de feu. Dans cette sorte d'incendie de ses illusions, dans cette tourmente enflammée où se consumaient les croyances, les espérances, les bonheurs de la jeune femme, étincelaient d'un fatal éclat, comme deux foyers d'incendie, un nom et une adresse. Le nom d'Antonia Verdi. L'adresse de la rue Jussienne. De toutes les passions qui fondent le cœur humain dans leur implacable creuset, la jalousie est celle qui sait le mieux donner un corps au fantôme qu'elle a créé. Ainsi, dans l'esprit de Jeanne, la trahison de Raoul était un fait prouvé, incontestable, et au sujet duquel l'ombre d'un doute ne pouvait pas même s'élever. Au bout d'un instant, elle arriva à se persuader à elle-même que son mari ne l'avait quittée que pour aller retrouver sa rivale, et qu'à ce moment, tous les deux, dans les bras l'un de l'autre, riaient ensemble de sa vaine et dévorante jalousie. La pauvre tête de Jeanne ne put supporter cette idée horrible. Une sorte de délire s'empara d'elle et la subjugua. Elle se sentit animée d'une force surnaturelle et elle s'écria « Moi aussi !» J'irai chez cette femme. » De la pensée à l'exécution, il n'y a pas loin. Jeanne, sans même prendre le temps d'échanger sa robe de chambre contre un autre vêtement, jeta sur ses épaules un mantelet de satin noir dont le large capuchon pouvait, en se rabattant, cacher entièrement son visage. Elle ouvrit le tiroir du meuble où Raoul puisait de l'or à pleine main et y prit 2 ou 3 louis. Ensuite, elle ôta un à un les différents objets qu'elle avait entassés devant la porte de la chambre. Elle ouvrit cette porte et elle entra dans la salle à manger. La première pensée de Jeanne fut de s'engager dans le couloir secret qui conduisait à la chambre des mages. Mais elle réfléchit qu'elle courait risque, en traversant l'appartement tout entier, de rencontrer Honorine ou Jacques, et que d'ailleurs il faudrait, en descendant l'escalier de l'hôtellerie, s'exposer à la curiosité des voyageurs et de Samuel lui-même, qui pourrait la reconnaître. En même temps, elle se souvint de l'issue cachée pratiquée dans l'un des panneaux de la salle à manger. Elle chercha le ressort et le découvrit sans peine. Le panneau céda et Jeanne se trouva sur le carré du grand escalier de la maison voisine. Elle descendit rapidement cet escalier sans s'inquiéter de refermer le panneau. Elle traversa cette vaste cour dans laquelle, le jour de son mariage, elle avait été attendue par le beau carrosse bleu et or aux chevaux blancs ferrés d'argent. Les souvenirs de ce jour de bonheur arrachèrent une larme à ses yeux et un soupir à sa poitrine. Elle franchit le seuil de la porte cochère et elle se trouva dans la rue. Là commença pour Jeanne un embarras à la pensée duquel son esprit ne s'était pas arrêté un seul instant. Elle savait bien que l'hôtel de Lyon était située rue de la Jussienne, mais où se trouvait cette rue, voilà ce qu'elle ignorait. Jeanne, nous l'avons déjà dit, ne connaissait point Paris. Elle avait quitté la grande ville dès sa première enfance. Elle y était revenue avec Raoul, mais pour ne sortir de chez elle que très rarement et en voiture. Ce soir-là, elle se trouvait toute seule et sur le pavé fangeux. La nuit tombait. Les passants et les voitures se croisaient autour d'elle avec un bruit assourdissant et une confusion inextricable. Elle eut peur et se mit à courir en longeant les murailles, tout éperdue et ne sachant plus où elle allait. Au bout de quelques minutes, le cœur lui manqua et ses jambes refusèrent de la porter plus loin. Elle se trouvait en ce moment au bout de la rue du Vieux Colombier, à l'entrée du carrefour de la Croix-Rouge. Jeanne serait tombée si elle ne s'était adossée pendant un instant à la porte d'une allée. Elle songea à retourner sur ses pas, mais elle ne savait plus par quel chemin elle avait passé, Elle lui paraissait impossible de retrouver la porte par laquelle elle venait de sortir. Elle résolut donc de continuer son chemin, et elle regarda autour d'elle avec un embarras manifeste, car elle souhaitait s'adresser à quelqu'un pour être renseignée sur la direction à prendre, et elle se sentait retenue par une insurmontable timidité. En ce moment, passèrent tout auprès d'elle deux porteurs, dandinant leurs chaises vides sur les longs bâtons qui la soutenaient. L'un d'eux aperçut Jeanne, et avec l'instinct qu'ont de nos jours les cochers de régie, il crut deviner en elle une bourgeoise timorée, allant en bonne fortune. Il s'arrêta donc et lui cria « Eh, ma petite dame, où faut-il une chaise ? Une bonne et belle chaise toute neuve, qui vous mènera comme le vent, partout où vous voudrez aller. Allons, ma petite dame, décidez-vous vite et ne mouillez pas plus longtemps vos jolis pieds sur ce vilain pavé crotté. » Jeanne se dit que la Providence venait visiblement à son aide. Elle fit signe au porteur qu'elle acceptait leur offre, et ils vinrent aussitôt se ranger au plus près de la muraille, de façon à ce qu'elle pût commodément s'installer dans la chaise. Ensuite, l'un des porteurs referma la portière, et mettant son bonnet à la main, il demanda « Où allons-nous, ma petite dame ?»«
Rue de la Jussienne, hôtel de Lyon, » répondit la jeune femme.
« Suffit, nous filons au pas de course. Vous n'êtes pas bien lourde, et le jarret est bon. »
La chaise fut soulevée en même temps, et Jeanne se sentit emportée par un mouvement rapide et uniforme. Le balancement monotone de ce genre de locomotion amena chez Jeanne une sorte de torpeur. Son corps s'engourdit en même temps que sa pensée, et elle se trouvait plongée dans cet état indéfinissable qui n'est ni la veille ni le sommeil, au moment où la chaise s'arrêta, et où un des porteurs vint lui dire
« Nous sommes arrivés, ma petite dame !»
Jeanne descendit. « Tenez, » dit-elle au porteur en lui tendant une pièce d'or. « Voilà pour vous, mon ami !»
Le porteur crut d'abord qu'il venait de recevoir une livre, mais quand à la clarté des lanternes de la chaise il eut aperçu les fauves reflets de l'or, il se confondit en remerciements et finit par demander
« Est-ce que votre seigneurie ne nous garde pas ?»«
Si, » répondit Jeanne, « attendez-moi là où vous êtes. Je vous reprendrai dans un instant. » Et elle entra dans l'hôtel.
« Vois-tu, » dit alors le premier porteur à son compagnon, « je parierais que c'est une grande dame qui fait son mari. Ce que tu sais bien. »
« Oui, » répondit le second, « j'imagine même que ce doit être une princesse, courant le Guilledoux incognito. »
Dans tous les cas, vive le sort qui nous envoie pareil aubaine.
Et ils s'assirent paisiblement sur les bâtons de leur chaise. Jeanne était entrée dans l'hôtel, avons-nous dit. La loge du portier était au fond de la cour. Il y avait ce soir-là réunion dans la loge. Le cerbère de l'hôtel avait convié aux douceurs d'une collation quelques personnages de distinction, parmi lesquels se trouvait Jean Carré, le laquais d'Antonia. On savourait d'épaisses pâtisseries arrosées de vin chaud sucré, et dont une forte dose de cannelle et de girofle relevait la saveur. Jeanne frappa un coup timide contre l'un des carreaux de la loge. Le portier, qui buvait en ce moment, voulut tourner la tête. Il avala de travers et s'étrangla abominablement, ce qui, pendant 2 ou 3 minutes, le fit tousser à rendre l'âme. Cette crise passée, il ouvrit le carreau et demanda d'un ton de dogue enrhumé.
« Qu'est-ce que vous voulez ?»«
C'est bien ici, n'est-ce pas ?» demanda Jeanne. « Que demeure la signora Antonia Verdi ?»«
Oui, »
répondit le portier. « Je désire la voir. »«
C'est impossible. »«
Pourquoi ?»«
Parce qu'elle est sortie. »
« Est-ce bien vrai cela, monsieur ?»«
Quand je dis quelque chose de mes locataires, » grommela le portier, « il serait beau qu'on ne me crût pas. »
Et il fit le geste de refermer le carreau. Mais Jeanne l'arrêta. « Savez-vous à quelle heure rentrera cette dame ?»«
Non, mes locataires ne me rendent point de compte. »«
Il faut cependant que je la voie, » murmura Jeanne. « Il le faut. »
« Eh bien, revenez, » fit le portier. Et il alla reprendre sa place et son verre de vin chaud.
« J'attendrai, » se dit Jeanne. « J'attendrai dans la rue. »
Et elle traversa la cour pour gagner la porte de sortie. Au moment où elle allait atteindre cette porte, un grand mouvement et un grand bruit se faisaient au dehors, et l'on entendait piaffer les chevaux d'un carrosse
qui venait de s'arrêter devant l'hôtel. Chapitre 32. Le gentilhomme. En même temps parurent deux laquais, de ceux qu'on appelait des grisons, sans doute à cause de la couleur sombre et uniforme de leur livrée. Ils précédaient, en portant des torches, une jeune femme entièrement vêtue de noir et dont le visage disparaissait sous les dentelles de ses coiffes. Cette jeune femme s'appuyait sur le bras d'un cavalier de haute taille qui marchait d'un air insolent, en faisant à chaque pas des écarts de poitrine.
« Vicomte, disait la jeune femme, je vous en prie, remontez en carrosse.
Et pourquoi donc, s'il vous plaît, ma toute belle?
Vous allez vous fatiguer.
Moi? Allons donc. Est-ce que je me fatigue jamais?
Ce que vous faites là est imprudent. Me voici chez moi. Laissez-moi monter seule.
Non, de par tous les diables. Je veux vous accompagner jusqu'au bout, et je ne vous ferai pas grâce d'une marche.
Songez donc, vicomte, combien vous devez être faible encore.
Le vicomte étendit en avant son poignet droit et sembla le regarder avec un air de satisfaction. Puis il reprit.
« Faible? Quelle bonne plaisanterie! Je tuerai un bœuf d'un seul coup.
Cependant, votre blessure
est parfaitement refermée. Cela m'a produit l'effet d'une saignée, et je ne m'en porte que mieux. Soyez donc sans inquiétude, ma chère Antonia. »
Le cavalier de la jeune femme prononçait ce nom au moment où tous les deux ne se trouvaient guère qu'à 3 ou 4 pas de Jeanne. Cette dernière, pour parler au concierge de l'hôtellerie, avait baissé le capuchon de sa mante. Son visage était à découvert. Le cavalier de la femme vêtue de noir la regarda en passant et un geste d'admiration lui échappa. Mais comme il ne pouvait quitter le bras de sa compagne, il poursuivit son chemin et traversa la cour avec elle, tout en se retournant plus d'une fois. Jeanne, grâce aux quelques mots qu'elle avait entendus, savait que la personne qui venait de rentrer était Antonia Verdi. Elle attendit pendant un instant, puis elle s'approcha de la loge pour la seconde fois et frappa au carreau. Jean Carré ne se trouvait plus parmi les convives du Suisse. Le retour d'Antonia l'avait appelé au premier étage.
« Qu'est-ce que vous voulez encore ?» demanda d'un air de plus en plus bourru l'amphitryon, séparé par cet appel intempestif de son vin chaud bien-aimé.
« Cette dame qui vient de rentrer est la signora Antonia Verdi, n'est-ce pas ?» demanda Jeanne.
« Oui. »«
Je vous ai déjà dit que je désirais lui parler. »«
Eh bien, parlez-lui. Est-ce que je vous en empêche ?»«
Où loge-t-elle ?»«
Ici, au-dessus, la première porte dans cet escalier. »
Et le Suisse, après avoir donné ce renseignement, retourna précipitamment s'asseoir. Jeanne monta. À moitié de la hauteur de l'escalier à peu près, elle rencontra l'homme qu'Antonia nommait vicomte. Il n'était plus précédé, mais suivi de ses deux laquais. Au lieu de se ranger pour laisser passer Jeanne, ainsi que le devait faire tout homme de bonne compagnie, il lui barra le passage en lui disant
« Mordieu, madame, puisque voilà la seconde fois que le hasard nous met sur le chemin l'un de l'autre, vous allez me payer, s'il vous plaît, l'impôt d'un baiser que me doivent toutes les jolies femmes. Et comme vous êtes deux fois plus jolie qu'une autre, vous acquitterez cet impôt deux fois. »
Et joignant le geste aux paroles, l'impertinent gentilhomme avança les deux mains pour emprisonner dans ses doigts longs et gros la taille fine et souple de Jeanne. La jeune femme poussa un cri et se rejeta vivement en arrière pour échapper à l'insolente agression dont elle était l'objet. Cette agression, du reste, ne se renouvela point. Le gentilhomme se mit à rire.
« Ah ah ! » fit-il d'un air sardonique. « Nous sommes aussi prudes que cela ? Tant pis, mordieu ! Tant pis, madame ! La pruderie, voyez-vous bien, ne porte bonheur qu'au laidron. Soyez tranquille, d'ailleurs, et montez tout à votre aise. Je cède la place à votre vertu. »
L'interlocuteur de Jeanne descendit en effet rapidement, et la jeune femme, pâle d'émotion et de frayeur, put arriver au premier étage. Il n'y avait qu'une seule porte sur le palier. Jeanne saisit d'une main tremblante le cordon de la sonnette et l'agita faiblement. Jean Carré vint ouvrir. Il reconnut la jeune femme et il lui dit
Ah, c'est vous, madame. J'ai prévenu ma maîtresse qu'on était déjà venu la demander, et elle m'a chargé de répondre, si on revenait, qu'elle ne recevrait personne ce soir.
Allez lui dire, je vous prie, murmura Jeanne, que c'est madame de la Tremblay qui demande à lui parler.
Je ne lui dirai rien du tout, répondit le laquais, attendu qu'elle vient de s'enfermer et que quand elle est enfermée, la maison brûlerait sans qu'il soit possible de parvenir jusqu'à elle. Je vous conseille de revenir.
Jeanne baissa la tête et retourna sur ses pas. Elle éprouvait une sorte de joie de ce que sa démarche n'avait point amené de résultat. Son exaltation fiévreuse était entièrement tombée, et elle s'avouait à elle-même que si elle s'était trouvée, ainsi qu'elle le souhaitait, en présence d'Antonia Verdi, elle n'aurait su en quels termes lui parler. La pensée d'une scène violente, en effet, ne pouvait même se présenter à l'esprit de Jeanne, et il répugnait à la fierté de son caractère de venir en suppliante demander à une autre femme de lui rendre le cœur de son mari. Déjà, elle avait descendu quelques marches quand Jean Carré la rappela. Elle tourna la tête.
Faudra-t-il dire votre nom ? Demanda-t-il, et annoncer que vous reviendrez ?
Jeanne réfléchit pendant un instant, puis elle répondit
« C'est inutile, je ne reviendrai pas. »
Elle acheva de descendre l'escalier et gagna lentement la rue. Presque en face de la porte et à peu de distance de la chaise à porteur, stationnait un grand carrosse attelé de beaux chevaux noirs. Un homme, assis dans ce carrosse, se penchait à la portière. Il se rejeta en arrière au moment où il aperçut Jeanne. La jeune femme remonta dans sa chaise.
« Où va madame ?» demanda celui des porteurs qui prenait le plus volontiers la parole.
« Rue du Cherche-Midi, » répondit Jeanne. « Vous m'arrêterez à l'hôtellerie du roi Salomon. »
La chaise se mit en mouvement.
Aussitôt, le carrosse s'ébranla et marcha au petit pas de ses chevaux dans la même direction que la chaise. Ils franchirent ainsi le pont Neuf, toujours à la suite l'un de l'autre, longèrent les quais et prirent la rue des Saint-Père. Un peu avant d'arriver à la place Tarane, les porteurs, pour couper au cours, imaginèrent de s'engager dans la rue Saint-Guillaume. Cette petite rue, peu fréquentée même en plein jour, était à cette heure absolument déserte. Le carrosse s'arrêta, et le gentilhomme que nous avons déjà rencontré rue de la Jussienne s'élança sur le pavé. Ce gentilhomme, escorté de ses deux laquais, mit l'épée à la main et courut après la chaise qui n'avait guère qu'une vingtaine de pas d'avance. En un instant, il l'eut rejointe, et il cria au porteur de sa voix la plus formidable.
« Sauvez-vous d'ici, Marot, et lestement, ou bien vous êtes mort !»
Les porteurs ne se firent pas répéter deux fois cette menace et prirent leurs jambes à leur cou, abandonnant la chaise au milieu de la rue. C'est ce que voulait l'agresseur. Il ouvrit la portière de la chaise, et il dit à Jeanne que l'épouvante pétrifiait.
« Je vous avais prédit, charmante tigresse !» que la pruderie portait malheur.
Chapitre 33. Le duel. Jeanne, étonnée d'abord lorsqu'elle avait senti le mouvement de sa chaise s'arrêter brusquement, tressaillit d'épouvante quand la portière s'ouvrit et quand elle reconnut le visage et la voix de son insolent agresseur.
« Qui êtes-vous, monsieur ? » s'écria-t-elle. « Et que me voulez-vous ? »
« Qui je suis ? » répondit l'inconnu. « Je suis un gentilhomme, fort épris de vos charmes, ma toute belle, et fort décidé à leur témoigner mon admiration. Ce que je veux, l'endroit me paraît mal choisi pour vous l'expliquer. Aussi je m'abstiens. Mais soyez parfaitement tranquille, vous ne perdrez rien pour attendre. »
L'inconnu, tout en parlant, prit la main de Jeanne et tira à lui cette main, afin de forcer la jeune femme à descendre de sa chaise. Jeanne résista. Elle se cramponna de tout son pouvoir à l'intérieur de la chaise, et elle murmura
« Au nom du ciel, monsieur, laissez-moi »
L'inconnu se mit à rire.
« Allons, dit-il, ma chère petite, faites les choses de bonne grâce. Vous comprenez bien que si je l'avais voulu, je vous aurais déjà enlevé de cette chaise comme un enfant enlève une plume. Mais je craindrais de froisser votre joli corps. Et je mets dans mes procédés toutes sortes de ménagements et de délicatesses. Cependant, il faut en finir, et je vous en préviens. Si cela n'est de plein gré, ce sera de force.
Mais
« Monsieur !» s'écria Jeanne avec l'énergie du désespoir. « Je suis une honnête femme !»«
Comme ça se trouve, je n'aime que celle-là » !»«
Je suis mariée !»«
Tant mieux, 100 fois !»« L'aventure en sera plus piquante !»«
J'aime mon mari !»«
Quelle plaisanterie !»«
Je l'aime, je vous jure, et de toute mon âme !»«
Quelle rareté !» fit l'inconnu en ricanant. « Vous n'êtes pas une femme, vous êtes le phénix, et plus que jamais je bénis la chance qui vous a poussé sur mon chemin. »
« Ainsi vous êtes sans pitié. »
« On n'a pitié que des malheureux, et je compte vous rendre heureuse. »
En ce moment, on entendit un bruit de pas du côté de l'extrémité de la rue Saint-Guillaume. L'inconnu tourna la tête avec inquiétude. Puis il ajouta brutalement en reprenant le poignet de Jeanne.
« Voyons, dépêchons-nous. Voulez-vous venir, oui ou non ?»«
Non, »
répondit Jeanne.
« Alors, » continua l'inconnu, « c'est moi seule que cela regarde. »
Tout en parlant, il saisit la jeune femme dans ses bras, l'arracha avec violence de l'intérieur de la chaise et l'emporta du côté du carrosse qui stationnait, nous le savons, dans la rue des Saints-Pères. Les deux laquais couvraient sa retraite.
« Au secours ! Au secours !»
criait Jeanne d'une voix étouffée. Mais rien ne répondait à son appel, rien que le rire insolent et ironique de son ravisseur. Jeanne se sentit perdue. Elle recommanda son âme à Dieu et elle souhaita de mourir. Les 2/3 de la rue étaient déjà franchis. Les pas qu'on avait entendus à l'extrémité opposée s'étaient arrêtés soudainement. L'inconnu aperçut tout à coup une grande figure debout en face de lui et lui barrant le passage.
« Place ! » cria-t-il en marchant toujours.
La grande figure ne bougea pas.
« Place ! »
répéta l'inconnu en tirant son épée de la main droite, car le bras gauche lui suffisait pour contenir les mouvements de Jeanne.
« Faites-moi place, ou malheur à vous !»« Que se passe-t-il donc ici ?»
demanda le nouveau venu d'une voix grave.
« Et pourquoi les cris de cette femme ?»«
Encore une fois, » dit l'inconnu avec une colère menaçante, « mêlez-vous de vos affaires, et ne m'arrêtez pas, ou sinon... » Et il fit 2 pas en avant, l'épée haute. Le nouveau venu ne tira pas la sienne, et croisa ses bras sur sa poitrine. Jeanne, à qui la discussion ainsi commencée rendait un peu d'espoir, redoublait ses appels suppliants. Le ravisseur s'arrêta, malgré lui, à 4 pas de cet homme qui le dominait par son calme imposant et qui lui dit hautement et d'un ton de commandement suprême « Je vous ordonne de me dire quelle est cette jeune femme et d'où vous viennent les droits que vous vous arrogez sur elle. »
« Il n'en a point !» s'écria Jeanne. « Il m'enlève par la violence et je ne le connais pas. »
« Alors, » continua le personnage mystérieux, « alors je vous ordonne de laisser libre cette femme. »
L'inconnu avait écouté les paroles qui précèdent avec un étonnement que nous ne saurions facilement décrire. Il ne pouvait croire que qui que ce fût dans le monde pût oser lui parler ainsi, et la stupeur avait dans le premier moment paralysé sa colère. Mais au bout d'une seconde, cette colère reprit tous ses droits. Il bondit en avant en poussant un rugissement sourd, de telle sorte que son visage se trouva à quelques pouces à peine de celui de son audacieux adversaire. Tous deux se reconnurent. 2 cris s'échappèrent à la fois de leur bouche et se croisèrent.
« Don Raymond ! Le vicomte d'Aubigny !»
Puis à ces cris succéda un instant de silence. Chacun des gentilshommes avait fait un pas en arrière, et le commandeur mettait la main sur la garde de son épée.
« Nous avons un compte à régler ensemble, Don Raymond !» fit le vicomte. « Je vous donne rendez-vous demain à 10 heures du matin, derrière le cloître Saint-Benoît. Mais ce soir, j'ai tout autre chose à faire. Laissez-moi donc passer maintenant que vous me connaissez. »
« Maintenant que je vous connais, vicomte d'Aubigny, » répondit le commandeur avec la même lenteur grave et solennelle,
« je vous ordonne de nouveau de rendre la liberté à cette femme, sinon je vais vous y contraindre. »
« En vérité ?» fit le vicomte avec ironie. « Sur mon honneur, » répondit Don Raymond. Monsieur d'Aubigny s'approcha de ses laquais, il leur dit quelques mots tout bas et jeta Jeanne entre leurs bras. Puis, tandis qu'ils faisaient volte-face et s'éloignaient rapidement en portant leur léger fardeau, il revint l'épée à la main prendre position vis-à-vis du commandeur.
« Sauvez-moi ! Sauvez-moi ! »
cria Jeanne d'une voix défaillante.
« Au nom de votre mère, ne m'abandonnez pas !»
Don Raymond fit un mouvement en avant. Mais c'était au tour du vicomte de lui barrer le passage.
« Eh bien ? » dit ce dernier en ricanant. «
Je croyais, fier défenseur des beautés opprimées, que vous alliez me contraindre à rendre la liberté à cette femme que mes gens enlèvent. Vous voyez bien que j'attends, et que vous ne me contraignez pas.
« Lâche !» murmura le commandeur, et il croisa son épée avec celle du vicomte. Des étincelles jaillirent des deux lames.
« Je croyais aussi que c'était aujourd'hui vendredi, » fit M. d'Aubigny. « Et vous ne vous battiez pas ce jour-là. »«
Vendredi ? C'est vendredi ?» répéta le commandeur avec une expression désolée. Et la main qui tenait son arme retomba inerte à son côté.
« Vous allez me proposer sans doute de remettre la partie à demain, » poursuivit le vicomte. « Mais vous m'avez appelé lâche tout à l'heure, et ces insultes-là doivent se laver sans retard. Nous allons nous battre tout de suite, et je saurai vous y forcer. »
En même temps, il souffleta le commandeur du plat de son épée. Don Raymond poussa un cri de rage. Il releva son arme et fondit sur son adversaire.
« À la bonne heure !» fit M. d'Aubigny. « Vous vous êtes donc décidé à la fin. Mieux vaut tard que jamais. Parez-moi un peu cette botte. »
« le vendredi !» murmurait sourdement le commandeur. On n'entendait plus la voix de Jeanne dans le lointain que comme un murmure indistinct. Cependant, le combat continuait avec une impétuosité sans égale et un acharnement terrible. Ce combat ne fut pas long. Au bout d'une minute, l'épée de Don Raymond traversa le cœur du vicomte, qui tomba raide mort sans pousser un soupir. La voix gémissante de Jeanne avait cessé de se faire entendre.